Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce samedi 23 mars 2024, le 4 Farvardin 1403 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. L'Iran condamne l'attentat terroriste de Moscou. Le projet de résolution américain est trompeur et complice des objectifs d'Israël, d'après le Hamas. 100 Palestiniens ont été tués dans une récente attaque israélienne contre l'hôpital Al-Shifa à Gaza. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. L'attaque terroriste contre une salle de concert en banlieue de Moscou a fait des dizaines de morts et de blessés. L'Iran et plusieurs autres pays ont condamné l'incident meurtrier. Dans un communiqué, le Kremlin a annoncé ce 23 mars que les services russes de sécurité FSB avaient arrêté 11 personnes, dont 4 terroristes directement impliqués dans l'attentat qui a fait au moins 115 morts au Caucus Sidial. Le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, a informé Vladimir Poutine de la détention de 11 personnes, dont 4 terroristes directement impliqués dans l'attaque terroriste perpétrée au Crocus Sidial, a indiqué le service de presse présidentiel. Grâce aux actions coordonnées des services spéciaux et des forces de l'ordre, les 4 terroristes ont été arrêtés à quelques heures d'intervalle dans la région de Bryansk, a déclaré dans un communiqué le Centre des relations publiques du FPS, précisant qu'ils étaient actuellement transportés vers Moscou. Selon le FSB, les terroristes avaient des contacts établis du côté ukrainien. Après avoir commis l'attentat, les criminels ont tenté de s'enfuir en voiture vers la frontière russe-ukrainienne, stipule encore le document. Selon le FBS, ils avaient des contacts établis du côté ukrainien. Dans la soirée du 22 mars, plusieurs individus ont ouvert le feu dans la salle de concert de Crocus Sidial dans la proche banlieue de Moscou. Au moins 115 personnes ont été tuées selon un nouveau bilan annoncé par le comité d'enquête rehaussant le précédent décompte de 93 morts. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas affirme que le projet de résolution américain sur la situation dans la bande de Gaza abandonnée vendredi par le Conseil de sécurité était trompeur et complice des objectifs d'Israël de poursuivre l'agression contre la bande de Gaza. Le Hamas a salué vendredi le veto de la Chine et de la Russie et l'opposition de l'Algérie au projet de résolution américain présenté au Conseil de sécurité sur une trêve dans la guerre israélienne contre Gaza. La résistance palestinienne a déclaré dans un communiqué que le projet de résolution américain contient des termes trompeurs et est complice des objectifs de l'ennemi israélien. La résistance a expliqué dans son communiqué que le projet de résolution dans la formulation finale présentée par Washington visait à permettre à l'ennemi de poursuivre son agression et à lui donner une couverture et une légitimité à la guerre d'extermination qu'il mène contre notre peuple palestinien dans la bande de Gaza, car il n'inclut pas d'exigence explicite pour une cessation immédiate de l'agression sioniste contre Gaza. Le Hamas a exprimé son appréciation pour le veto de la Russie et de la Chine, ainsi que pour l'opposition de l'Algérie. Tous les trois ont rejeté le projet américain biaisé contre le peuple palestinien et ont exigé l'arrêt immédiat de la guerre génocidaire sioniste qui dure depuis plus de 5 mois. Le Hamas a souligné qu'au cours des 5 derniers mois, l'administration du président américain Joe Biden a fourni tous les moyens et outils de soutien militaire et politique à l'entité criminelle israélienne dans sa guerre contre notre peuple, et cela a causé la mort de dizaines de milliers d'enfants et de femmes et de civils. Le directeur du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas à Gaza a rapporté que les soldats de l'armée du régime sioniste avaient tué plus de 100 personnes lors de leur récente attaque contre l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne a commis une nouvelle exaction à l'hôpital Al-Shifa lors de laquelle ont été tués 100 autres Gazaouis, a déclaré le directeur du bureau des médias du gouvernement de Gaza, Ismail Al-Tawabta. Il a révélé que les militaires israéliens avaient exécuté certains membres du personnel médical à l'intérieur de l'hôpital et qu'ils avaient empêché le traitement des patients, à la suite de quoi 4 entre eux étaient tombés en martyrs. Al-Tawabta a par ailleurs qualifié de désastreuse la situation dans l'hôpital Al-Shifa et ajouté, dixit, l'armée usurpatrice israélienne a menacé le personnel médical et les déplacés trouvant refuge à l'intérieur de l'hôpital que s'ils n'acceptaient pas d'être interrogés, ils détruiraient le bâtiment de l'hôpital. Le directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas a d'ailleurs tenu l'administration américaine, la communauté internationale et le régime d'occupation israélienne pleinement responsables de la poursuite des crimes commis par les soldats sionistes contre le personnel médical de l'hôpital ainsi que les déplacés et les blessés qui se trouvent dans ce complexe hospitalier. Le siège et les bombardements des zones autour de l'hôpital Al-Shifa se poursuivent ce samedi pour le 6e jour consécutif. Israël a annoncé avoir saisi des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée pour étendre ses colonies de peuplement. Il s'agit de l'un des plus grands projets de confiscation des terres palestiniennes par le régime d'occupation israélien. Vendredi, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a fait part de la décision du régime de confisquer 800 hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. L'annonce intervient peu après la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans les territoires occupés, portée sur des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. Smotrich a souligné que le régime israélien était déterminé à poursuivre la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, malgré le tollé international croissant. Cela intervient alors que les États-Unis, alliés d'Israël, ont déclaré le mois dernier que l'expansion des colonies en Cisjordanie était incompatible avec le droit international. Plus tôt ce mois-ci, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a réaffirmé que l'expansion des colonies constituait un crime de guerre au regard du droit international. Plus de 600 000 Israéliens vivent dans environ 230 colonies de peuplement construites depuis l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza Est en 1977. Alors que toutes les colonies israéliennes sont illégales en vertu du droit international, Israël a accéléré l'expansion des colonies en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité. Les Palestiniens revendiquent la Cisjordanie dans le cadre d'un futur État indépendant avec Gaza Est pour capitale. Les autorités palestiniennes ont condamné la saisie de terres et l'expansion des colonies illégales. Le Liban a annoncé qu'il déposerait plainte auprès du Conseil de sécurité contre Israël, accusant ce dernier de perturber les systèmes de navigation de l'aéroport de Beyrouth en violation de la souveraineté du pays. Dans un communiqué diffusé par l'Agence nationale de presse officielle libanaise, le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël mettait en danger l'aviation civile dans l'espace aérien de l'aéroport international de Beyrouth. Le Liban va déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet d'Israël qui perturbe les systèmes de navigation et la sécurité de l'aviation civile dans l'espace aérien de l'aéroport de Beyrouth, a indiqué le ministère libanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Destination France. Pour fermer le journal, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'un événement à l'Élysée que la chute de l'Ukraine était imminente, une déclaration faite après des semaines de rhétorique guerrière à l'encontre de la Russie. À ce stade, le patron de l'Élysée s'active pour que les alliés apportent rapidement de l'aide à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Plus tôt, il avait déclaré que les pays européens ne devraient pas s'imposer de limites lorsqu'ils parlent d'aider l'Ukraine, à empêcher la propagation du sentiment défaitiste, exprimant également son soutien à l'initiative tchèque visant à acheter des obus d'artillerie à des pays tiers hors de l'Union européenne. Le 26 février, s'exprimant à l'issue d'une conférence sur l'Ukraine à Paris, Macron n'a pas exclu, sans équivoque, la possibilité d'envoyer des troupes terrestres occidentales dans la zone d'opération militaire spéciale en Ukraine. Il a également promis que les États occidentaux feraient le nécessaire pour empêcher la Russie de remporter la victoire dans ce conflit. Dans un entretien accordé le 17 mars au journal Le Parisien, Macron a déclaré que des opérations terrestres pourraient être nécessaires à un moment donné pour affronter les forces russes en Ukraine. Cette proposition de Macron a suscité la vive réaction et l'avertissement de Moscou. La mise en garde de Macron contre la défaite de l'Ukraine face à la Russie intervient alors que sa récente proposition d'envoyer des troupes en Ukraine fait toujours l'actualité. Selon la chaîne RT, Macron a amplifié sa rhétorique guerrière quelques semaines après la mort de plusieurs ressortissants français en Ukraine lors d'une attaque de missiles russes. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Au plein milieu d'une guerre génocidaire, les Palestiniens trouvent un réconfort dans l'esprit du jeûne du Ramadan. Au mois de Ramadan, les mères de Gaza préparaient le kataïf, le dessert traditionnel associé au mois de jeûne, dont l'odeur se répandait dans les coins et recoins du quartier. Le territoire palestinien côtier, densément peuplé, arborait un look festif avec une galaxie de lanternes ornant les rues bondées. Les mosquées résonnaient de prières et de supplications émouvantes et ajoutaient une aura de spiritualité au bonheur des gens. C'est à nouveau cette période de l'année, mais maintenant un silence étrange a remplacé l'agitation. La tristesse et le malheur ont remplacé la joie et l'excitation au milieu de la guerre génocidaire en cours. Le calme de l'âme est brisé au bruit de la mort. Des sirènes retentissent partout et des bombes sont larguées sur les maisons et les rues par le régime israélien. La prison à ciel ouvert s'est transformée en cimetière à ciel ouvert. La plupart des mosquées ont été réduites en ruines. Le jeûne, plutôt que d'être une expérience spirituelle, est devenu un mode de vie pour les habitants au milieu d'un siège et d'une famine paralysant. Mais les habitants de territoires assiégés, fatigués par la guerre, n'ont pas abandonné leur foi. Cette année, le Ramadan manifeste la résilience et l'espoir indomptable des Palestiniens au milieu du génocide en cours, qui en est maintenant à son sixième mois. Les personnes vivant dans les conditions désespérées, dans les tentes de fortune, ont démontré leur foi inébranlable, conformément au véritable esprit des enseignements coraniques. La lumière des lanternes traditionnelles vacille dans la ville de Tente de Rafah, une ville du sud de Gaza, où l'invasion militaire israélienne à grande échelle semble imminente. Depuis le début du mois sacré de jeûne, les Palestiniens déplacés vers le sud de la bande de Gaza ont installé des lampes et des guirlandes lumineuses devant leurs tentes en plastique. L'illumination apparaît comme un éclair de fête et de célébration dans une scène dominée par la mort et la destruction. Le Ramadan, qui était traditionnellement la période de joie et de réunion de famille, est désormais une sombre affaire. Les gens sont assis par terre, entourés des débris des bâtiments détruits par les frappes aériennes israéliennes, pour rompre leur jeûne. De nombreux Palestiniens espéraient que le mois sacré du Ramadan mettrait fin au bombardement israélien en cours, mais le régime a bloqué les efforts visant à parvenir à un accord de trêve. L'entité occupante s'est résolue à détruire le tissu religieux et culturel de Gaza. Son ministre du patrimoine, Amiyai Eliyahu, a récemment appelé à anéantir le mois du Ramadan, suggérant même que le régime pourrait utiliser des armes nucléaires pour détruire le territoire côtier assiégé. Bien que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ait appelé à faire taire les armes pendant le Ramadan, le régime israélien a cependant poursuivi ses bombardements aveugles pendant ce mois sacré à travers la bande de Gaza. Pire encore, il utilise la faim comme arme de guerre contre les Palestiniens pendant le mois de jeûne. Les gens ont été obligés de rompre leur jeûne avec de l'herbe ou de la nourriture en conserve s'ils avaient de la chance. La famine est pire dans le nord du territoire où de nombreuses personnes, pour la plupart des enfants, sont mortes de malnutrition et de déshydratation ces derniers mois. À quelques jours du début du mois sacré du Ramadan, les responsables des organisations humanitaires affiliées à l'ONU ont réitéré leurs profondes inquiétudes quant au nombre croissant d'enfants qui meurent de faim, a déclaré l'ONU dans un communiqué le 7 mars. Des centaines de Palestiniens ont été tués par les forces du régime ces dernières semaines alors qu'ils attendaient des camions de nourriture, notamment au nord-point de Koweït, dans la ville de Gaza. Des vidéos ont circulé sur Internet montrant des centaines de Palestiniens faisant des prières collectives du Ramadan dans les ruines d'une mosquée détruite par les frappes aériennes du régime israélien. Selon les autorités locales de Gaza, les bombardements du régime sur la bande de Gaza ont détruit plus de 1000 mosquées. Le territoire soumis au blocus comptait 1200 mosquées avant le début de la guerre de 7 octobre 2023.
Bonjour à tous, bienvenue. Le sujet du jour est de retour sur Gaza. Gaza, la survivante. Gaza qui ne laisse pas tomber. Gaza qui ne cesse pas faire face à l'entité sioniste malgré tout son matériel de dernière technologie. C'est le sujet de notre débat. Je vous propose tout d'abord donc un reportage comme le veut notre format débat et par la suite nous ferons venir nos invités pour débattre donc de la situation gazaoui mais également de l'impact international de leur situation. Tout de suite donc notre reportage.
Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a salué les opérations anti-israéliennes menées par les factions de la résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak. L'axe de la résistance a fait preuve de tout son potentiel et a efficacement bouleversé les calculs stratégiques de Washington en Asie occidentale, a déclaré le leader. Lors de son discours prononcé à l'occasion du Nouvel An iranien ce mercredi 20 mars à Téhéran, l'Ayatollah Khamenei a déclaré que l'ambition de longue date des États-Unis de dominer la région a été sapée par la résilience de l'axe de la résistance. Les États-Unis n'ont désormais d'autre choix que de se retirer de la région, a déclaré l'Ayatollah Khamenei. Il a réfuté les allégations occidentales selon lesquelles l'Iran serait à l'origine de tous les actes de la résistance dans la région, précisant que bien que l'Iran soutienne ces mouvements, ceux-ci agissent de leur propre chef. Évoquant le sort tragique des Palestiniens, l'ayatollah Khamenei a déclaré qu'aucune personne consciencieuse ne pouvait rester silencieuse face à l'oppression génocidaire exercée par le régime israélien dans la bande de Gaza. Le leader a déclaré que Washington était devenu un grand perdant dans la guerre à Gaza. Le soutien indéfectible que les États-Unis apportent à Israël a gravement nui à leur réputation dans le monde, décuplant la haine envers Washington dans la région, a déclaré l'ayatollah Khamenei.
Nous revoilà donc dans les studios. Tout de suite, nous allons annoncer nos invités du jour. Premier invité étant Monsieur Maître Elie Atem, spécialisé en droit international public. Maître Atem, ravi de vous avoir de nouveau avec nous ici dans les studios du débat de Presse TV.
Bonjour et merci de votre invitation.
Notre deuxième invité étant Monsieur Amrouni, fervent défenseur et militant pour le droit palestinien. Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir également avec nous aujourd'hui dans ce débat.
Bonjour à vous, à votre cher invité Maître Elie, à tous nos chers téléspectateurs. Joyeuses fêtes de Nérouz et bon mois de Ramadan.
Merci, merci Monsieur Amrouni. Alors, aujourd'hui est un sujet sur Gaza, mais on aimerait avoir une perspective positive malgré le fait de leur situation humanitaire, c'est-à-dire la perspective positive, c'est surtout au niveau international. Maître Atem, est-ce que vous avez écouté donc le discours de l'ayatollah Ali Khamenei qui a eu lieu pour la célébration de Nowruz, du nouvel an perse, du nouvel an iranien, où il a indiqué que la situation de Gaza n'est pas la situation d'avant la guerre, elle est plus positive. Maintenant, les pays sont obligés de réagir, ne peuvent plus se lier diplomatiquement facilement avec l'entité sioniste. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport aux propos tenus par le leader de la révolution islamique d'Iran? Et qu'est-ce que vous en pensez dans un point de vue de perspective de droit international?
Écoutez, les faits lui donnent raison, parce qu'il faut dire que après ce qui s'est passé le 7 octobre et le début l'intervention ce leader de l'entité sioniste, nous avons assisté à une discipline de la société internationale, en particulier l'Occident, qui était soutien, et de leurs alliés. Mais nous avons vu quand même, mais en n'importe quel style, compte tenu de l'ampleur ces actes qui ont été véhiculés à l'encontre de la population civile palestinienne, que instance ministère générale, la Cour de justice, a été ici la poursuite et a constaté qu'il y a des éléments très tangibles qui laissent penser qu'il y a effectivement un génocide qui est en train d'être commis à l'encontre de la population palestinienne, la population civile. Donc, ça, c'est un élément qui est assez important et qui a permis un changement de plus en plus, je dirais, de la part de ceux qui soutenaient l'entité sioniste dans son offensive, en particulier son premier et principal allié, les États-Unis, et puis le monde anglo-saxon, que ce soit le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les autres pays. Donc je ne parle pas de la France, parce que la France vient en dernier et suit le courant. Donc nous avons assisté récemment à une décision courageuse de la part du Canada de cesser de livrer des armes à l'entité sioniste. Autrement dit, il y a un sentiment plus de culpabilité, de peur, de crainte chez les États qui soutiennent ces actes terroristes de la part de cette entité sioniste, commise par ces forces militaires qui ne sont autres en fait que le prolongement d'organisations terroristes telles que la Haganah, l'ERI et puis les autres organisations qui étaient qualifiées comme des organisations terroristes et qui continuent avec ces mêmes méthodes nazies à exterminer la population palestinienne. Nous voyons également un changement dans l'attitude des États-Unis qui se rendent compte quand même du danger qu'encourt les États-Unis en continuant à soutenir ces actes terroristes de la répétitif et quotidien de la part de ces forces militaires de l'entité sioniste à l'encontre de la population palestinienne. Donc il y a un changement qui est en train donc de s'opérer en faveur de la justice, en faveur de la protection de la population civile palestinienne qui est en train de subir ces exactions, soi-disant sous le principe de la légitime défense de l'entité sioniste qui est connue aux Nations Unies, reconnue pardon, aux Nations Unies comme étant un État. Mais nous savons que l'article 51 d'ailleurs de la Charte des Nations Unies ne reconnaît le recours à la légitime défense que quand un État est attaqué par un autre État et non pas par un mouvement de résistance nationale tel que le Hamas, qui est considéré par les alliés, en fait, de l'entité sioniste qui exerce des actes de terrorisme. Plus que cela, pas simplement des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité qui constituent de véritables actes de terrorisme. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, il n'y a pas de définition juridique du terrorisme en droit international public, mais on peut l'attribuer, ce sont les médias qui l'attribuent et les juristes ne sont pas parvenus à le faire. Donc aujourd'hui, nous pouvons constater, compte tenu de la gravité des faits et qui sont commis par cette entité sioniste, constitue incontestablement des actes de terrorisme et tout soutien en fait à ces actes-là et à cette entité constitue une apologie du terrorisme et un soutien et une complicité de ces crimes contre l'humanité que tous ceux qui ont soutenu cet auteur de ces actes criminels doivent être également poursuivis et payer des dommages et intérêts à la population civile palestinienne.
Merci Maître Atem. On rappelle aussi que le mot colonisation et la situation de colonisation est également décriée par le droit international. Donc deux situations en faveur forcément des Palestiniens. Monsieur Amrouni, donc de nouveau merci de nous avoir rejoints. Ensuite, deuxième point, d'un point de vue Monsieur Eliatem, Maître Eliatem dans sa plaidoirie, j'ai envie de dire, vient d'indiquer que les Américains viennent voir qu'ils sont en train de perdre, mais il y a quand même une grande différence entre il y a 10 ans, lorsqu'on parlait d'impérialisme, on soutenait le fait que c'était des conspirationnistes qui disaient que les Américains étaient des impérialistes. On décriait le fait qu'il ne s'était pas bien s'en prendre aux alliés. Je parle des alliés d'un point de vue de la conception après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, différents acteurs internationaux l'utilisent très clairement. Nous avons donc le représentant d'Albanie qui l'a dit directement devant Blinken. Nous avons l'ancien Premier ministre irlandais qui l'avait également indiqué très directement devant le président Biden. On n'a plus honte et on n'a plus peur d'utiliser ces termes pour désigner les États-Unis, sachant qu'il y a quelque temps encore, c'était une erreur et c'était faire preuve, on se tenait du mauvais côté de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez donc le discours ?
D'abord, il faut rappeler que l'imam Khamenei a toujours considéré la question palestinienne, c'est une question centrale de la lutte de la nation musulmane et de la lutte de tout homme et femme libre dans le monde, car il considère, lui personnellement d'abord, que la résistance palestinienne, c'est une résistance nationale qui cherche l'indépendance, la liberté et la paix, d'une part. D'autre part, le fondement réel de la révolution islamique iranienne, elle était fondée sur la lutte des peuples. L'imam Khomeini, paix à son âme, fondateur de la République islamique, a toujours précisé que la révolution islamique, elle est en faveur de tous les opprimés dans le monde, d'une part, et il considère que la question palestinienne, c'est une question centrale dans l'unité de la nation musulmane. Donc, la Palestine, la question palestinienne, elle est au cœur de l'idéologie révolutionnaire iranienne et au cœur du pouvoir iranien. De cette manière, de cette façon, on voit tous les ans le peuple iranien se mobilise le dernier vendredi de chaque mois de Ramadan pour montrer son soutien réel à la question palestinienne au niveau islamique, mais surtout au niveau révolutionnaire. Et donc, de ce fait, le même Khamenei a bien mentionné le rôle important de la puissance montante de l'axe de la résistance. Et c'est un point très important dans cette guerre que Maître Elie a bien précisé, que c'est des crimes contre l'humanité. C'est pour la première fois qu'on voit ça en direct, c'est-à-dire jour après jour, heure par heure, on voit les exactions de l'armée sioniste. C'est la première fois de l'histoire humaine. Deuxièmement, donc cette résistance palestinienne, c'est une résistance populaire. On n'est pas armé face à une autre armée. On est une armée d'occupation face à une population qui se défend avec les moyens de bord qu'elle a. Et donc le discours de l'imam Khamenei montre d'abord l'unité du peuple palestinien, le bravoure et le courage de la résistance palestinienne, mais surtout la naissance de l'axe de la résistance dans la région. Et ça, il faut bien le mentionner, que grâce aux bravoures du peuple palestinien, de l'unité du peuple de Gaza, du courage de la résistance palestinienne, mais surtout de cette nouvelle donnée militaire sur terrain, c'est-à-dire l'entrée en guerre de l'axe de la résistance terre, mer, air. Et ça, c'est la première fois depuis 50 ans. Depuis la guerre de 73, c'est la première fois qu'on a une guerre, si vous voulez, dans plusieurs endroits. C'est-à-dire il y a Gaza, il y a le sud du Liban, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a le Yémen. Donc c'est une guerre tactique pour des objectifs stratégiques. Peut-être pour la première fois, les États-Unis aussi, elles se trouvent coincées. C'est-à-dire elles n'arrivent pas à prendre des décisions. Et c'est pour cette raison-là, on voit que Biden et son équipe, ils n'arrivent pas de prendre une décision finale, définitive. Ils essaient de gagner du temps, mais ils n'ont pas une vision stratégique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va garder la sécurité d'Israël ou on va changer la carte même d'Israël? Et ça, c'est une question centrale, où dans le discours de l'imam Khamenei le montre très bien. C'est-à-dire que la victoire sera une victoire palestinienne et que l'axe de la résistance continuera à soutenir le peuple de la Palestine jusqu'à l'indépendance.
Maître Elie Hatem, nous avons vu, donc, vous avez parlé vous-même du Canada et la réaction canadienne, le Parlement canadien étant interdit maintenant l'envoi de matériel et la vente de matériel militaire à l'entité sioniste. Mais nous avons vu également, il y a quelques heures de ça, hier, donc une réponse française, la diplomatie française ayant annoncé qu'il pourrait juger tout à fait les soldats israélo-français qui seraient responsables donc d'actes terroristes ou d'actes anti-humanitaires. Nous voyons donc d'autres pays éventuellement pouvoir prendre le pas. Est-ce que c'est un espoir? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la question gazaoui, derrière la question palestinienne, il y a également d'autres questions. La question par exemple du Front Polisario qui est également sous colonisation selon le droit international en tout cas. Et il peut s'avérer que ça va être des possibilités aux gens de pouvoir finalement se faire représenter au niveau du droit international et au niveau du droit national des pays responsables, puisque beaucoup entretiennent une double nationalité.
Vous savez, nous avons assisté dans la société internationale à d'abord principe du droit international qui n'arrivait plus à être appliqué, en particulier depuis la chute de l'Union soviétique. Le grand témoin de ce principe, donc, ou de cette constatation plutôt, était l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali, qui était à la tête de l'Organisation mondiale, donc l'ONU, et qui était censé faire appliquer le droit international public. Mais malheureusement, en raison de ce monde unipolaire qui a émergé avec les États-Unis qui se sont imposés ou érigés comme gendarmes du monde, nous avons assisté à une sorte de jungle internationale où le plus fort applique sa règle sur le plus faible. Alors, au sujet d'ailleurs de l'entité sioniste qui est appelée par certains Israël, cette entité n'a pas respecté plus de 65 décision qui condamne son occupation manu militari de la Palestine, et elle ne l'a jamais appliquée parce qu'elle a reçu le soutien de son principal allié sur la scène internationale, qui sont les États-Unis, mais bien sûr, il y a aussi l'Angleterre et les autres puissances. Là, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un certain espoir de revoir une certaine, je dirais, pas à exécution, mais plutôt un retour à faire vivre le droit international public, tant par les instances internationales telles que la Cour internationale donc, de justice. Nous attendons également les suites que va donner la Cour pénale de justice internationale, qui se trouve également à La Haye, mais qui est complètement indépendante de la Cour internationale de justice et qui juge les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par certaines personnes et qui a été saisie en novembre dernier d'une plainte à l'encontre des personnes de, ou des personnes publiques de l'entité sioniste, M. Netanyahou, M. Ben Gvir, et puis les autres qui ont donné des ordres pour exécuter ces crimes contre l'humanité, autrement dit ce génocide. Maintenant, il existe également des machines de droit judiciaire interne à chaque pays. La France, nous avons vu également une décision récente d'un tribunal hollandais, donc des Pays-Bas, qui a pris certaines mesures en ce qui concerne d'ailleurs l'armement ou les armes qui sont destinées pour soutenir les actes terroristes et cette commission de crimes contre l'humanité commis par l'entité sioniste. Les tribunaux en France, bon, ils sont en théorie assez, je dirais, objectifs et puis indépendants pour pouvoir éventuellement poursuivre tous ceux qui ont participé également à ces crimes de, contre l'humanité. Voilà, alors c'est l'espoir que nous avons, mais l'espoir le plus important, c'est de continuer, je dirais, notre résistance, non pas simplement armée, mais également notre résistance médiatique par l'intermédiaire des moyens donc, de communication, parce que nous assistons également à une guerre en Occident, une guerre qui est fondée sur cette communication. Et là, si vous me permettez en deux mots, comme nous sommes dans un débat, rectifier une vision que mon ami M. Amrouni a donnée relativement au conflit palestinien. Alors moi, j'ai une autre vision complètement différente, parce que le conflit palestinien n'est pas essentiellement un conflit, entre des Juifs et les musulmans. Ce que d'ailleurs le sionisme et l'entité sioniste veut démontrer à la société internationale, qu'il y a d'une part l'entité sioniste ou les juifs, alors que cette entité est de moins en moins soutenue par les différentes communautés juives, et démontre que de l'autre côté il y a une résistance islamique palestinienne. Cela me paraît complètement faux du côté palestinien, parce qu'il faut rappeler que la résistance palestinienne est née, la résistance militaire, elle est née, est faite par des chrétiens comme Georges Habash, comme Naïef Hawatmé et comme les autres donc, qui ont décidé d'imiter la résistance française à l'occupation allemande et faire des actes sur le terrain, mais également contre les forces et les puissances d'occupation de l'entité sioniste. D'un point de vue intellectuel, il faut rappeler que les premiers qui ont alerté l'opinion publique, que ce soit palestinienne et internationale, depuis le 19e siècle, c'était également des chrétiens palestiniens, puis Georges Nassar, depuis également Georges Antonius, Michel Chia, et puis les autres, qui soient des Palestiniens, que ce soit des gens également du monde arabe, qui alertaient cette opinion contre cette implantation, cette immigration massive de la part de populations par les mouvements sionistes mondiaux, que ce soit les Amants de Sion et puis par la suite l'Organisation sioniste mondiale. Mais l'entité sioniste a voulu, je dirais, donner un cachet religieux pour discréditer la cause palestinienne qui est défendue autant par des chrétiens que par des musulmans, en démontrant que c'est le Hamas qui est un mouvement islamiste et qui est un mouvement des frères musulmans, en sachant que quand même que le Hamas a changé sa charte en 2017 et il y a au sein du Hamas des défenseurs de la résistance armée palestinienne et qui ne sont autres que des chrétiens, non seulement des chrétiens, je dirais, de la société civile, mais également des religieux tels que le père Emmanuel Moussallem ou bien même l'évêque orthodoxe de Jérusalem, Monseigneur Atallah, qui démontre dans sa lutte, je dirais, médiatique, un soutien à cette résistance militaire de la part du Hamas, qui a repris le flambeau de la résistance militaire de l'OLP et de tous ces chrétiens qui, au départ, n'avaient que le seul moyen utilisé, à l'instar de la résistance française contre l'occupation nazie, les armes pour récupérer leur territoire. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, qui est assez important, et pour éviter de tomber de la
Maître Atem, alors j'aimerais laisser, malheureusement on a très peu de temps parce que j'aurais voulu laisser la conclusion à M. Amrouni, bien que vos informations sont extrêmement riches et parfaitement vraies. On oublie souvent de mentionner les chrétiens dans la situation palestinienne qui sont bien là et qui ont toujours été là. Malheureusement, à cause de cette intervention, on ne va pas pouvoir laisser M. Amrouni conclure. J'en suis désolée, M. Amrouni, mais je vous remercie à tous les deux pour votre intervention d'aujourd'hui qui est extrêmement riche et qui, j'espère, permettra à nos auditeurs de mieux comprendre et continuer à vouloir soutenir la cause palestinienne. Nous présentons comme d'habitude nos condoléances et nous apportons notre confort à ces Palestiniens qui souffrent à l'heure actuelle d'un génocide. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat. Au revoir.
Les États-Unis tentent d'entraver la mise en œuvre du projet de gazoduc Iran-Pakistan. Le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale a déclaré que les États-Unis s'opposaient au projet de gazoduc Iran-Pakistan. S'adressant aux membres du Congrès lors d'une audition au Congrès à Washington le mercredi 20 mars, le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, Donald Liu, a déclaré que les États-Unis déployaient tous leurs efforts pour faire obstacle à la construction du projet de gazoduc Iran-Pakistan. Il a prétendu que les États-Unis étaient préoccupés par les tensions dans les relations du Pakistan avec l'Iran voisin, en particulier en ce qui concerne le projet de gazoduc Iran-Pakistan et que Washington était en contact avec Islamabad à ce sujet. Or, lors d'une conférence presse hebdomadaire à Islamabad le jeudi 21 mars, la porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra, a fait savoir « Islamabad n'a pas besoin des recommandations des autres ni d'une exemption des sanctions. Il est par contre déterminé à mener à bien le méga-projet de transfert de gaz en provenance de l'Iran vers le Pakistan. » La récente décision du gouvernement d'avancer le projet de gazoduc IP et de le remettre à exécution sur le territoire pakistanais est une décision indépendante, une opération qui sera bientôt mise en œuvre sur notre sol, a dit la haute diplomate pakistanaise réagissant aux récents propos interventionnistes du diplomate américain sur la coopération entre Téhéran et Islamabad dans le domaine énergétique. le secrétaire d'État adjoint américain pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, est allé plus loin en disant que le projet n'était pas dans l'intérêt du Pakistan, d'autant plus que les sociétés internationales n'y investiraient pas. Les États-Unis surveillent de près le financement du méga-projet. Washington n'a reçu aucune demande d'Islamabad concernant l'allègement des sanctions. Nous poursuivrons donc nos efforts pour empêcher le Pakistan de coopérer avec l'Iran dans son projet gazier, a dit le diplomate iranien. En février, le Pakistan a donné son feu vert à l'avancement du projet de gazoduc commun avec l'Iran sur son territoire, un pas de géant franchi vers le renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. La commission du cabinet pakistanais chargée de l'énergie a donné l'aval au démarrage de la construction du pipeline de 80 km reliant la frontière Pakistan-Iran à Gwadar. Le projet, lancé en 2013, imposait initialement au Pakistan d'achever la construction du gazoduc sur son territoire jusqu'à la fin 2014. Cependant, le projet a connu des retards prolongés en raison des défis potentiels qu'il posait au Pakistan dans le contexte des sanctions internationales visant l'Iran. Le Pakistan risque une amende de 18 milliards de dollars s'il met fin à l'accord bilatéral sur le projet du gazoduc. Le chef du CENTCOM se dit très préoccupé par l'alliance Iran-Chine-Russie. Le chef du commandement central américain, CENTCOM, le général Michael Corilla, a déclaré le jeudi 21 mars au Congrès américain qu'il était très préoccupé par l'alliance naissante entre l'Iran, la Chine et la Russie et par ce qu'il a nommé des implications mondiales du bloc. Il a dit que le partenariat du trio avait des conséquences mondiales. Corilla a fait ses commentaires lors d'une audition de la Commission des services armés de la Chambre des représentants, détaillant les défis en matière de sécurité nationale au Moyen-Orient et en Afrique. Collectivement, l'Iran, la Russie et la Chine renforcent leurs relations et entretiennent un paysage chaotique favorable à leur exploitation, a dit Corilla aux législateurs, ajoutant plus tard. Les ramifications de ce partenariat auront des implications mondiales. C'est un thème que Corilla a encore abordé à la Chambre des représentants. Ce que nous constatons, c'est que l'Iran dépend de la Chine et que la Russie dépend de l'Iran. Celui-ci vend à la Chine 90% de son pétrole, sanctionné par les États-Unis, a déclaré Corilla au législateur. Il a une fois de plus répété ses allégations infondées contre l'Iran, l'accusant de fournir des drones à la Russie. À cet égard, il ajoute, « Les Iraniens ont construit une usine pour la Russie afin que les Russes puissent désormais les construire eux-mêmes. » Corilla a déclaré que ce que la Russie pouvait fournir à l'Iran était préoccupant, bien que le commandant américain n'ait pas voulu donner plus de détails lors de la partie publique de l'audience. La semaine dernière, les pays du groupe des 7, G7, ont mis en garde l'Iran contre le transfert de missiles balistiques à la Russie pour les utiliser contre l'Ukraine, déclarant « Nous sommes prêts à réagir rapidement et de manière coordonnée, y compris par de nouvelles mesures significatives contre l'Iran. » Lors d'une audition d'il y a 2 semaines, devant la Commission des forces armées du Sénat américain, il a par ailleurs souligné que ni l'Iran ni les États-Unis ne voulaient une guerre directe entre eux. Selon le rapport publié sur le site web du département américain de la Défense, sur l'audition de la Commission des forces armées du Sénat américain, le commandement du CENTCOM a également prétendu, lors de cette réunion, que les différents groupes des forces affiliées à l'Iran étaient dotés d'armes avancées et sophistiquées, et qu'il menaçait certaines régions vitales du monde et que tout cela aurait des conséquences défavorables pour le monde et pour l'Amérique. Le temps où les États-Unis et la Grande-Bretagne pouvaient voler le pétrole est bel et bien révolu. À la veille du 73e anniversaire de la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne, le lundi 19 mars, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que l'Iran riposterait pour sûr contre tout vol de son pétrole. Selon le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, les étrangers ne pourront plus exploiter les réserves d'eau brute du pays. Aujourd'hui, s'ils volent notre pétrole et saisissent nos pétroliers n'importe où dans le monde, nous y apporterons une réponse, a-t-il martelé et de poursuivre. Le temps où les étrangers se vantaient du pillage des biens de la grande nation iranienne et bel et bien révolu. Le Royaume-Uni a pillé le pétrole et les ressources iraniennes pendant de nombreuses années, a dénoncé le contre-amiral Tangstiri. Mais aujourd'hui, la jeunesse du pays se dresse fièrement contre l'arrogance mondiale. Le 20 mars 1951, les membres du Parlement iranien ont adopté un projet de loi présenté par le Premier ministre démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, visant à nationaliser l'industrie pétrolière. La décision de Mossadegh a été soutenue par son parti nationaliste ainsi que par des personnalités religieuses dirigées par l'éminent ayatollah Abdelrahim Kachani. Cette initiative a mis fin à la domination britannique sur l'industrie pétrolière iranienne pendant 4 décennies. La société britannique IOC jouissait d'un contrôle monopolistique sur l'industrie et ne versait qu'une petite part des revenus au gouvernement iranien.